Le ministre de l'économie et des finances est l'invité de France Inter jusqu'à 9h. Bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour Nicolas Demorand.
2012-2017 sont les 5 années les plus chaudes jamais enregistrées sur Terre. Voilà pour le cadre, le contexte de notre entretien. Serons-nous capables de tenir les engagements de la COP21? Beaucoup en doute aujourd'hui, Bruno Le Maire. D'où cette question, le sommet climat de Paris est-il à la hauteur de cet enjeu vital? Ou n'est-il qu'un bon coup de peinture verte sur l'économie?
Il doit être à la hauteur, nous n'avons pas le choix. Et je pense qu'il y a des choses nouvelles qui sont mises sur la table. Hier, nous avons eu la journée de la finance verte. La France est leader sur cette question de la finance verte. C'est un élément clé pour faire bouger concrètement les choses sur le climat. De la transparence d'abord, pour amener toutes les banques, toutes les institutions financières à dire pour qui elles investissent, où elles placent l'argent des particuliers. Parce que si vous placez l'argent sur des centrales à charbon, ça risque de pas être très rentable.
Mais ça, on sait pas. Risque. On sait toujours pas où va l'argent en 2017.
On va aller vers plus de transparence, plus d'informations, et des particuliers, et de la part des banques et des institutions financières. Deuxième chose, l'État français s'engage. Nous avons été le premier État au monde à émettre des obligations du Trésor qui sont des obligations vertes. 8 milliards d'euros pour financer uniquement des projets verts. Et nous venons d'émettre pour près de 10 milliards d'euros de nouvelles obligations, là encore pour financer la transition écologique. J'ai également fait signer une charte par l'ensemble des investisseurs publics. Nous l'avons signée avec Nicolas Hulot et avec Jean-Yves Le Drian pour que tous les investisseurs publics, la Banque publique d'investissement, la Caisse des dépôts et consignations, s'engagent à financer en priorité des investissements verts. Et enfin, troisième proposition très concrète que nous avons mise sur la table, nous souhaitons que tous les citoyens puissent, avec leur épargne, financer des projets verts. Dans vos contrats d'assurance vie, désormais, vous pourrez demander à avoir une partie de vos contrats d'assurance vie fléchée exclusivement, prioritairement, vers des projets verts. Et le livret de développement durable, qui, de vous à moi, ne porte pas très bien son nom jusqu'à présent, parce qu'il finance beaucoup de choses qui, malheureusement, ne sont pas forcément des projets verts, désormais...
10 milliards de projets verts sur 100 milliards,
voilà,
c'est ça?
Voilà, on peut faire beaucoup mieux, et non seulement on peut faire beaucoup mieux, mais on va, Nicolas
Demorand,
faire beaucoup mieux. Donc nous donnons la garantie, désormais, à tous les Français que chaque euro qu'ils placeront sur un livret de développement durable
servira
et solidaire
à financer le développement durable
servira bien
et
à financer le développement durable et la transition écologique. Et ce sera sous contrôle de la Caisse des dépôts et consignations, parce que c'est toujours mieux de contrôler les
et
choses.
Est-ce que le livret de développement durable pouvait éventuellement servir à financer de la centrale à charbon ou pas
non,
dans les 90%
consacré,
qui restaient.
Une grande partie était consacrée au logement, mais pas forcément, effectivement, à des projets verts. Cette fois-ci, ce sera des projets verts.
Est-ce que vous comprenez le scepticisme, Bruno Le Maire?
Bien
parce
sûr.
Que on l'entend depuis tellement d'années qu'il faut changer nos modes de vie, changer le financement de l'économie, changer les façons de faire, changer les mentalités. On l'entend, on le réentend, on le réentend. Et à chaque fois, on fait des interviews et on en est au même point.
Mais bien sûr que je comprends le...
Quel est le levier de
le
transformation? Les obligations vertes, sincèrement?
Je crois que la finance est un des éléments de transformation important. Moi, je parle de ce qui est dans ma compétence. À partir du moment où l'ensemble du secteur financier s'engage avec toute la puissance qu'il représente pour la transition écologique, je pense que c'est un élément absolument majeur. À un moment donné, votre centrale à charbon, il faut bien la faire tourner, il faut bien faire des investissements. Si vous n'avez plus l'argent nécessaire, si on sait que vous allez mettre l'argent des particuliers sur des projets qui sont sans avenir parce qu'ils émettent trop de CO2, ça vous coupe les financements, ça vous coupe les investissements et ça vous fait renoncer à des investissements qui ne sont pas bons pour la planète. Donc je pense que la finance peut être un levier très efficace de soutien au développement durable.
Est-ce que vous pouvez dire ce matin plus un euro d'argent pour les énergies fossiles, productrices donc de carbone? Est-ce que ça, au moins, on pourrait partir de là?
Non, ce serait malhonnête de dire ça. Ce serait malhonnête parce que toutes les centrales au charbon vont fermer d'ici 2022.
Donc il faut continuer à investir dedans.
D'ici 2022, si on est très honnête, il y aura bien un ou deux euros qui serviront à faire tourner ces centrales. En revanche, l'engagement que nous prenons, c'est que pour tous les nouveaux projets, la priorité absolue ira vers la transition écologique, le soutien au climat. La priorité que nous plaçons sur la finance verte fait de la France le leader dans ce domaine. Non seulement pour financer les entreprises, financer les projets, mais également pour faire de la recherche. Le fonds sur l'innovation de rupture, 10 milliards d'euros, qui va être mis en place à partir de janvier, il aura lui aussi une priorité sur le verdissement de notre économie et notamment la recherche sur les batteries, sur le stockage de l'énergie renouvelable. On sait bien que la question du stockage de l'énergie renouvelable va être demain une question clé. Nous allons investir massivement dessus.
Allez, trois questions rapides encore sur ce sujet. La fixation d'un prix du carbone reste à faire.
Il est trop bas.
Et donc, quand et combien ?
Il est trop bas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est entre 5 et 10 euros la tonne. Il faudrait qu'on atteigne environ 30 euros la tonne. C'est un prix indicatif que je donne. Mais il est trop bas, donc il n'est pas assez dissuasif. Et là aussi, ça rejoint la réflexion que je fais. La finance est un levier très puissant pour réorienter les investissements et améliorer la situation du climat dans le monde.
30 euros la tonne, à quel horizon pour monter ce...
Le plus tôt sera le mieux.
Le plus tôt sera le mieux. Hausse des prix des carburants à la pompe au 1er janvier, combien ? Parce que ça aussi, c'est un levier.
On fait la convergence entre le diesel et l'essence. On a aujourd'hui un peu plus de 12 centimes d'euros d'écart. Il n'y a rien qui justifie que le diesel soit moins cher que l'essence. Nous le faisons progressivement parce que pour tous ceux qui ont des véhicules diesel, bien entendu que c'est dur d'avoir à payer plus cher son litre de diesel à la pompe. Mais nous faisons la convergence pour réorienter la consommation des particuliers et qu'on abandonne progressivement le diesel. J'ajoute un point très important.
C'est que combien, derrière, il y a des... excusez-moi, Bruno Le Maire.
12 centimes d'euros qui seront rattrapés en trois tranches.
Ce qui veut dire au 1er janvier, excusez-moi.
Ce qui veut dire au 1er janvier 4 à 5 centimes d'euros de plus par litre de diesel pour les particuliers.
Et pour l'essence
à l'essence, diesel. Le niveau de taxe reste exactement le même, puisque c'est une convergence du diesel vers l'essence. En revanche, ce dont il faut avoir bien conscience, c'est que ça a un impact sur la filière diesel qui est extraordinairement lourd. Le diesel, c'était il y a quelques années 75% des achats de véhicules. C'est tombé un peu plus de 50%. On va arriver très rapidement à 25%. Il y a des milliers d'emplois qui sont concernés. Je pense par exemple à l'usine Bosch à Rodez, 1600 emplois. Donc j'ai reçu le directeur de cette usine Bosch, j'ai reçu le président de Bosch pour en discuter avec lui, j'ai reçu l'ensemble des acteurs de l'industrie automobile et du diesel pour qu'on regarde avec eux comment est-ce qu'on accompagne cette transition. Parce que non seulement il faut faire la transition écologique, mais il faut aussi accompagner les transformations d'emploi et ne laisser personne de côté. Parce que moi je pense aux ouvriers de cette usine de Rodez qui font aujourd'hui des injecteurs pour des moteurs diesel, qui se demandent de quoi leur avenir va être fait, il faut les accompagner, leur donner de nouvelles formations et trouver de nouvelles activités pour cette usine.
EDF, l'État est chez lui à EDF. Et c'est en 2017, Bruno Le Maire, que EDF annonce 25 milliards d'euros pour le solaire. 30 gigawatts dans le solaire à terme. Aujourd'hui, c'est 0,2, nous disent les échos ce matin. Je le redis, l'État est chez lui et on en est encore là en 2017 à découvrir l'énergie solaire.
On la découvre pas, on la développe. Vous devriez, Nicolas Demorand, vous réjouir comme je me réjouis ce matin.
Vu le retard, on a l'impression que EDF découvre un continent.
Mais non, mais EDF.
Et l'existence d'une planète qui s'appelle le Soleil.
EDF s'engage totalement dans les énergies renouvelables, à la demande du gouvernement. Il le fait dans le solaire, il annonce ce déploiement massif. Ensuite, vous savez, ça va être très concret, c'est que non seulement EDF fait ses investissements, mais après, il va falloir dégager des lieux pour installer ces panneaux solaires. Il va falloir réaliser ces installations.
Autour centrales nucléaires, disent les mauvaises langues.
Oui,
panneaux solaires autour des centrales.
L'important, c'est qu'ils soient développés. C'est que EDF continue à s'engager massivement pour les énergies renouvelables. Et moi, je salue cette décision d'EDF parce que c'est bien la preuve que ce grand électricien qui fait la fierté de notre pays a parfaitement pris le tournant des énergies renouvelables. Ensuite, vous parlez du nucléaire. Mais c'est une transition qu'il faut opérer. Cette transition, elle doit se faire progressivement. Il ne faut pas abandonner, d'un autre côté, l'atout considérable que représente le fait d'avoir une énergie sûre, avec de la sécurité d'approvisionnement et un prix bas pour les particuliers comme pour les entreprises, que représente le nucléaire. La transition doit se faire progressivement.
Deux entreprises, Lactalis pour commencer, Bruno Le Maire, des parents qui ont acheté et donné à leurs nourrissons du lait Lactalis contaminé par des salmonelles s'organisent pour saisir la justice. Vous avez décidé de retirer 12, puis finalement ce week-end 600 références de lait infantile. Que dites-vous ce matin, Bruno Le Maire ? Lactalis n'a pas fait le nécessaire pour stopper cette contamination. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Lactalis ne nous a pas donné les garanties suffisantes. J'ai été 3 ans ministre de l'Agriculture. J'adopte exactement la même ligne que celle que j'avais quand j'étais ministre de l'Agriculture. la sécurité sanitaire des Français passe avant toute considération. Toute considération. Même économique, même d'emploi, avant toute considération. Surtout quand il s'agit de lait pour des bébés et pour des enfants. Nous n'avions pas toutes les garanties nécessaires, donc nous avons demandé à Lactalis de retirer 600 lots, ça représente 7000 tonnes de lait infantile, pour garantir la sécurité sanitaire aux Français.
Mais les procédures de vérification n'étaient pas à la hauteur chez Lactalis ?
Lactalis ne nous a pas donné, une fois encore, les garanties suffisantes. Nous avons une direction qui s'appelle la Direction Générale de la Consommation et de la Répression des Fraudes, qui a fait un travail formidable. Je tiens à saluer le travail des agents de la DGCCRF. Ils se sont rendus sur place. Nous n'avons pas eu de garanties suffisantes pour autoriser la mise en consommation de certains lots. Donc nous avons pris cette décision, qui est une décision lourde. Nous avons parfaitement conscience de retrait de 7000 tonnes de lait infantile. Mais la sécurité sanitaire des Français, notamment des enfants français, est à ce prix. Donc j'assume totalement cette décision.
Allez, on en reste là pour l'instant. On vous retrouve après la revue de presse avec Léa Salamé pour la suite de cet entretien. Claude Askolovitch.